Hey, t'écoutes quoi en ce moment ?
Radio Cham.
Mais c'est quoi Radio Cham ?
La radio qui cuisine les ondes.
Ce jeudi 27 avril, nous avons eu l'honneur de recevoir dans notre établissement Thierry Ferral, spécialiste de la question du nazisme. La conférence qu'il a menée ce jeudi matin s'inscrit comme le prolongement de notre voyage en Autriche qui nous a menés sur les traces des crimes nazis. En effet, les explications précises et souvent nouvelles sur les phases, les personnalités ou encore les raisons de ce crime contre l'humanité perpétré sous les ordres du chancelier Hitler viennent compléter les multiples témoins visibles que nous avons pu observer lors de ce voyage. Si la visite du camp de Mauthausen nous éclaire indéniablement sur l'horreur et l'ampleur de la violence nazie, le devoir de mémoire doit, me semble-t-il, se poursuivre dans la connaissance et non s'arrêter à la constatation des actes. S'il faut se souvenir des victimes et participer à leur commémoration comme nous avons pu le faire lors de notre voyage en déposant des bougies sur les monuments aux morts et tombes des soldats, il faut aussi se souvenir de cette idéologie terrible ainsi que du nombre des personnalités qui ont agi dans cette même voie, si on ne retient souvent que le nom d'Hitler. C'est en ce sens que le discours de Thierry Ferral a pu nous aider à poursuivre notre chemin du souvenir. Aujourd'hui, si les images de l'Autriche et du camp de Mauthausen où notre sensibilité a été véritablement touchée nous reviennent facilement en tête quand le sujet du nazisme est abordé, la conférence de Thierry Ferral nous permet de poser des mots et des termes sur ces crimes. Et cela participe évidemment au devoir de mémoire que tout citoyen devrait poursuivre.
Bonjour, merci Agnès, merci François, merci de votre présence et pour votre invitation. Je ne vais pas faire une conférence, mais je vais simplement vous proposer un certain nombre de réflexions sur le thème qui est donc inscrit là, origine et évolution du système concentrationnaire nazi. Alors, origine et évolution du système concentrationnaire nazi. Donc, tout part d'une construction idéologique. Une construction idéologique peut parfaitement être à visée humaniste. C'est-à-dire que c'est une construction idéologique peut avoir le souci du bien-être, de la dignité, de la liberté de l'homme. Vous en doutez, je ne vous apprendrai rien en vous disant ça. Avec les nazis, ça n'est bien sûr pas le cas. Les nazis n'ont jamais caché une chose, c'est leur détestation absolue des idées des Lumières et de la Révolution française. Mein Kampf, ce livre-là, ce petit livre-là, donc Mein Kampf d'Adolf Hitler, ça tout le monde le sait, ou encore le mythe du XXe siècle, Der Mythos des 20. Jahrhunderts, de Alfred Rosenberg, qui est là, ne cache pas que tout ce qu'il souhaite, c'est que 1789 soit une date rayée de l'histoire. C'est dit en ces termes. 1789 doit être une date rayée de l'histoire. Donc, nous ne voulons plus entendre parler des notions de liberté, égalité, fraternité. Un discours de Goebbels dit la même chose. C'est un discours radiodiffusé de 1933, dans lequel il est clairement dit « Nous, nationaux socialistes, allons définitivement balayer tous les acquis de la Révolution française. » Haine vis-à-vis de toutes ces idées-là. Donc. Dans la foulée, se trouvent diabolisés tous les penseurs et tous les auteurs progressistes. Et Dieu sait s'il y en avait en Allemagne à l'époque. Ça, vous le savez peut-être, leurs ouvrages de ces auteurs, de ces penseurs progressistes, seront brûlés en place publique. Le 10 mai 1933, c'est ce que l'on a appelé Die Bücherverbrennung, pour ceux qui parlent allemand, l'autodafé. Donc, élimination de tous ces écrits. Et il y en avait, peut-être avez-vous vu même des images de ces livres en train de brûler. Ça va aussi concerner tous les opposants et détracteurs du projet nazi, les responsables politiques, les responsables syndicaux, les responsables associatifs, etc. Et on va alors assister à quelque chose de terrible, c'est qu'on va voir l'Allemagne frappée de glaciation. Et toutes les grandes figures qui portaient la réputation de l'Allemagne au niveau international, toutes ces grandes figures vont choisir majoritairement de partir en exil. Donc l'Allemagne se retrouve vidée de ses têtes pensantes, resteront ceux qui sont favorables à l'idéologie nationale-socialiste, et on ne peut pas dire que ce soit réellement des gens qui pensaient, tout en tout cas dans le sens où moi-même je l'entends. Il existe un courant, il faut le savoir, c'est un courant qui a été impulsé par un historien allemand qui s'appelle Nolte, peut-être le nom vous est-il familier, et en France par François-Georges Dreyfus. Ce sont des gens qui prétendent que la construction idéologique des nazis s'origine dans la réaction à la République munichoise des conseils. La République munichoise des conseils, c'est, si vous voulez, une révolution qui a eu lieu en 1918-19 à Munich. Et donc c'est là que serait née l'idéologie nationale-socialiste. Et donc cette idéologie, du fait qu'elle est née là durant cette révolution, relèverait d'un objectif défensif radical. J'insiste sur l'expression « objectif défensif radical ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les nazis ont mis en œuvre des moyens radicaux, c'était pour défendre l'humanité du communisme, du bolchevisme, comme on disait à l'époque, et de tous ceux qui, aux yeux des nazis, incarnaient de près ou de loin cette idéologie communiste, notamment les juifs qui l'auraient inventée pour étendre leur pouvoir partout dans le monde. Pour ma part, je soutiens au contraire que la construction idéologique nazie est un anti-humanisme agressif, radical. La construction idéologique nazie relève de ce que l'on appelle une Weltanschauung, je traduis par vision du monde, et j'insiste sur le terme vision. Vision du monde, et cette vision du monde est à dimension paranoïaque. Dit brièvement, il existe une race supérieure, la race ario-germanique. Cette race, c'est le pilier de la civilisation humaine. Rien ne pourrait exister au niveau civilisation humaine si cette race n'avait pas été là. Et ça va très très loin quand on lit les textes, parce qu'ils vont faire des Grecs des Ariens, ils vont faire des Latins des Ariens, ils vont tout arianiser. C'est en ce sens que c'est complète, c'est réellement une vision. Donc, cette race supérieure, cette race ario-germanique, son existence est mise en danger par des éléments qui lui sont néfastes. Ces éléments néfastes, il faut les mettre au pas. Et si besoin, il faut les éliminer. En effet, nous explique Hitler dans Mein Kampf, à la page 318, s'il y a d'excellents germanistes parmi vous, ils pourront consulter, j'ai marqué la page ici. Si ces éléments néfastes venaient à prendre le dessus, il est probable, et je cite Hitler, qu'au bout de quelques millénaires, les ténèbres couvriraient de nouveau la terre, entraînant la disparition de la culture humaine et la désolation du monde. C'est une vision du monde purement fantasmatique. et disons même qu'elle est totalement délirante, dans le sens où elle est parfaitement contraire à toute rationalité scientifique. En soi, les idées qui constituaient cette vision du monde n'étaient pas nouvelles. Elles avaient déjà été énoncées par un tas d'huluberlus depuis la fin du XIXe siècle. Mais le fait nouveau a été que des germanolâtres, c'est-à-dire des fanatiques de la Germanie, des germanolâtres exaltés, dégoulinant de prétentions scientifiques, politiques, et parmi lesquelles Hitler, ont su dans les années 20 agréger ces idées et les présenter comme une doctrine. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Ils n'ont pas créé ces idées-là, mais ils ont agglutiné un tas d'idées qui préexistaient. Bien sûr, bon, vous pouvez fantasmer, vous pouvez avoir un tas d'idées délirantes, les choses pourraient en rester là. Des élucubrations de ce type, il en surgit sans cesse dans nos sociétés. Mais il en surgit énormément, mais elles ne font pas forcément mouche. Là, dans le cas présent, le malheur a voulu que les conditions économiques et politiques catastrophiques, il faut bien le dire, dans lesquelles baignait alors l'Allemagne, et elles ont favorisé progressivement, car tout est progressif, et vous verrez, j'emploie souvent ce terme, petit à petit, l'acceptation de cette vision du monde par les masses. C'est-à-dire que petit à petit, les gens se sont dit, après tout, pourquoi pas. D'autant que pour assurer une résonance publique la plus large possible à ces théories, les nazis ont su s'appuyer sur un arsenal propagandiste redoutablement sophistiqué et d'une époustouflante modernité technique. Utilisation de la radio, utilisation de l'avion, de tout ce dont on disposait de plus pointu à l'époque. Alors on va assister progressivement à une véritable Umwertung der Werte, pour reprendre le terme nietzschéen, c'est-à-dire un renversement des valeurs où les pulsions démoniaques vont pas à pas, vous voyez, encore une fois, je suis toujours dans cet aspect de progressif, pas à pas, les pulsions démoniaques vont se substituer à la conscience morale. Je cite encore une fois Hitler, et vous allez voir, c'est très clair, « Il faut libérer l'homme de l'avilissante chimère qu'on appelle conscience morale. Méfions-nous de l'esprit et fions-nous à nos instincts. Tout acte a un sens, même le crime. » Deuxième réflexion, il y a eu des femmes, il y a eu des hommes, avec une personnalité solidement structurée sur le plan moral et civique, qui ne se sont pas laissés emporter par le flot de la vision, par le flot puissant, c'était un flot extrêmement puissant, de la vision du monde nazi martelée par la propagande. La propagande ne cessait pas de marteler. Mais dans leur majorité, les Allemands s'y sont ralliés par illusion d'un avenir plein de promesses et sans s'interroger sur ce à quoi ils souscrivaient. Je dis bien, je me laisse emporter, mais je ne réfléchis pas du tout à ce qui m'emporte. Et c'est ça le plus troublant. Plusieurs millions d'individus ont appelé de leur vœu l'accession de Hitler et des nazis au pouvoir. Et donc, par là même, ils ont remis leur destin entre les mains d'un démagogue érigé en fureur infaillible. Et lorsque les nazis sont effectivement arrivés au pouvoir, le 30 janvier 1933, tous ces gens ont toléré les exactions de la nouvelle gouvernance comme un mal nécessaire. On doit en passer par là, mais après, nous allons connaître un avenir lumineux. Et là, on se trouve à un phénomène paradoxal que l'on appelle la servitude volontaire. C'est un concept qui a été forgé par La Boétie vers 1548 et sur lequel on réfléchit tant Wilhelm Reich, psychologie de masse du fascisme, Theodor Adorno, étude sur alors, la personnalité autoritaire, Stanley Milgram en 1974. Peut-être connaissez-vous l'expérience de Milgram, on y reviendra si vous ne connaissez pas. Gérard Mendel en 2002 et encore tout récemment Boris Cyrulnik. Dans une conférence à l'université Clermont-Auvergne, vous la trouvez sur YouTube. Je vous recommande d'aller voir éventuellement, ça c'est assez impressionnant. La question... Quelle est-elle ? La question est, pourquoi cette soumission des uns alors que les autres s'y sont refusés ? Qu'est-ce qui fait défaut chez un être humain pour qu'il accepte de se soumettre à une autorité en renonçant à son libre arbitre et en allant jusqu'à sacrifier ses propres intérêts ? Question. Et en fait... La réponse est inhérente à chacun de nous. Il faut sans cesse que nous nous interrogions sur notre capacité individuelle à résister à la pression des rapports sociaux. Il faut s'efforcer, selon la formule de Bertolt Brecht, de penser non pas dans le courant, mais sur le courant. Nicht im Fluss, sondern über den Fluss. Réflexion numéro 3, je vous ai dit donc que j'allais parler de l'origine et de l'évolution du système concentrationnaire nazi, origine et évolution. C'est un point extrêmement important, je m'explique. Lorsqu'en France, on évoque les camps, on pense tout de suite déportation. Déportation de résistants, déportation d'otages, déportation des juifs à partir de Drancy... Pithiviers, Bonne-la-Rolande, etc. C'est une attitude parfaitement compréhensible compte tenu de ce que cela a signifié en souffrance et horreur. Mais du strict point de vue analytique, c'est insuffisant pour rendre compte de ce que fut réellement le système concentrationnaire nazi. En effet, en parlant... des déportations d'otages, de juifs, etc., de résistants, on se propulse d'emblée dans les années 40, dans les années 1940. Or, il y avait déjà belle lurette que les camps existaient sur le territoire du Reich, qui, je le rappelle, inclut l'Autriche à partir de... mars 1938, avec en août l'ouverture du camp de Mauthausen et un an plus tard de Gusen. Donc ça existait. Et ce que vous ne savez peut-être pas, et ça c'est un point important, c'est que la première déportation de juifs allemands par le Gauleiter de Bad Robert Wagner et le Gauleiter de Sarre-Palatinat Joseph Pürkel n'a pas eu lieu vers l'Est. Vous voyez, quand on parle des déportations, on pense toujours les camps de l'Est. La première déportation de juifs allemands n'a pas eu lieu vers l'Est. En effet, ça se passe les 22 et 23 octobre 1940. Auschwitz ne date que de 5 mois. Auschwitz, c'est encore une ancienne caserne où l'on a rassemblé des prisonniers polonais. Point. Et alors, donc, les nazis sont bien ennuyés. Parce que, les juifs, les évacués, mais où ? On n'a rien, on n'a pas de structure adaptée pour évacuer d'Allemagne plusieurs milliers de personnes. Alors, il va se passer là une chose absolument dingue, c'est que les nazis vont s'entendre avec l'État français, dirigé par le maréchal Pétain et Pierre Laval, pour convoyer ces pauvres gens à Gurs, Gurs, un camp au centre des Pyrénées-Atlantiques. Et ce camp avait été créé en avril 1939 par le gouvernement d'Aladier pour interner des réfugiés politiques espagnols qui fuyaient le régime de Franco. Entre les innombrables morts par malnutrition, dysenterie, typhoïde et ceux qui parviendront à s'évader ou à émigrer, donc qui ont été libérés parce que quand même cet afflux, il fallait le gérer, ceux qui se trouvaient encore dans le camp à l'été 42, comme ce couple que vous voyez là, seront envoyés à Sobibor, au camp de Sobibor et à Birkenau, où ils seront gazés. Sobibor, effectivement, comme on vous le montre là-haut. Il est évident que les habitants des localités où ces juifs ont été raflés ont parfaitement su ce qu'il se passait. Moi, j'ai étudié le problème à Fribourg, Freiburg im Breisgau, c'est-à-dire c'est pas très loin de la frontière française. Et je peux vous dire que ces juifs ont été convoyés à pied jusqu'à la gare centrale, ce qui signifie qu'ils ont traversé la ville. Et même si ça s'est produit à l'aube, 300 personnes qui marchent dans les rues avec leur paquetage, ça ne passe pas inaperçu. Et en admettant que l'on n'ait rien vu, que l'on n'ait rien entendu, reste quand même la question de savoir le lendemain où sont passés tous ces voisins qui subitement ont disparu de votre quartier. Eh bien non. Le bourrage de crâne, mensonger et haineux sur les Juifs qui avaient été orchestrés par la propagande, y compris à l'école. Et la mise en œuvre graduelle, j'y reviens, toujours cette notion de progressivité, de petit à petit, mise en œuvre graduelle d'une législation antisémite très élaborée, ont fait que l'on a détourné le regard, que l'on est resté indifférent, avec en arrière-plan l'idée qu'après tout, ces gens, si on les évacuait, c'est peut-être bien qu'ils avaient fait quelque chose, c'est peut-être bien qu'ils le méritaient. Alors, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est avec quelle facilité une doctrine, même totalement aberrante, peut s'ériger subrepticement, sans que l'on en ait réellement conscience, en un corpus référentiel légitimateur d'attitudes négatrices de toutes les valeurs morales. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Petit à petit, les choses se font. Et petit à petit, on glisse vers des attitudes. Et puis, un jour, ma foi, on accepte le pire. Réflexion numéro 4. Le système concentrationnaire nazi a été d'emblée un pivot majeur de la politique nazie. Deux points. D'une part, pour briser l'opposition existante et dissuader de constituer une opposition. D'autre part, pour débarrasser la communauté raciale populaire allemande, le Volk, de tous les Volksschädlinge, c'est-à-dire de tous les éléments susceptibles de lui nuire. C'est important. Les opposants, tout ce qui peut être dangereux pour la politique menée par les nazis, tout ce qui peut être résistance, mais aussi le... Alors ça, c'est le paramètre politique, si vous voulez, mais, deuxième point, le paramètre biologique. Éliminer tout ce qui peut être contraire à un épanouissement de la communauté raciale populaire. Ce qui prouve que l'institutionnalisation du système concentrationnaire nazi relevait d'une volonté affirmée, l'ouverture de Dachau dans la foulée de l'incendie du Reichstag, ça vous dit quelque chose, l'incendie du Reichstag? Oui, d'accord. Dans la foulée de l'incendie du Reichstag, donc, cette ouverture du camp de Dachau a fait l'objet d'une annonce d'une présentation officielle par voie de presse. Dans les Münchner Neueste Nachrichten, ou encore le Völkischer Beobachter, c'était des journaux nazis, du 21 mars 1933, on trouve le communiqué suivant, je vous le lis. Mercredi 22 mars 1933, le premier camp de concentration, et le terme employé est Konzentrationslager, le premier camp de concentration sera inauguré à proximité de Dachau. Il a une capacité de 5000 personnes. Nous avons adopté cette mesure sans nous laisser arrêter par des scrupules mesquins, car nous sommes convaincus d'agir par là même pour la sécurité de notre population nationale. Ils emploient ici le terme de nationale Bevölkerung. Mais ce qui est sublime, c'est pour la sécurité de notre population nationale, conformément à ses aspirations. C'est-à-dire que si le camp est ouvert, c'est que vous l'avez demandé. À l'époque de ce communiqué, et ce communiqué est signé par le futur chef de l'ASS et toutes les polices du Reich, c'est-à-dire il est signé Kimmel, Heinrich Himmler, le terme camp de concentration, Konzentrationslager, ça n'évoque rien de bien précis pour la population allemande. Les seuls à savoir ce que c'est qu'un Konzentrationslager, eh bien, ce sont ceux qui sont enfermés, c'est-à-dire les centaines de communistes, de socialistes et autres réprouvés du régime, même des intellectuels à l'époque directement menacés, comme Alfred Döblin, par exemple, le célèbre auteur de Berlin Alexanderplatz, avoueront plus tard ne pas avoir compris ce que cela signifiait, Konzentrationslager, et ils y échapperont par miracle. Donc, au printemps 1933, le camp de concentration, alors 4-7 en abrégé, n'est encore pour la grande masse des Allemands qu'un néologisme. Certes, on n'ignore pas qu'il existe depuis 1923 des camps de détention préventive tout là-haut, la zone assurée, dans l'Emsland. Bon, c'est une zone marécageuse, quasiment désertique, près de la frontière hollandaise, où l'on isolait les criminels jugés irrécupérables. Ces camps, donc datés de 23, ils avaient été créés par la République de Weimar et on les appelait Schutzhaftlager. Mais ces camps relevaient d'un cadre juridictionnel codifié. Et ceux qui y étaient détenus étaient condamnés lors d'un procès en bonne et due forme. Donc ils passaient devant un tribunal, il y avait condamnation, ils étaient envoyés là-haut. Mais avec les nazis, on assiste à un glissement sémantique de Schutzhaftlager, donc de ces camps de l'Emsland qui sont là-haut, à Konzentrationslager. Bon, aux yeux des gens, qu'est-ce que ça veut dire? Bof, c'est pas grand-chose, c'est un simple changement d'appellation, un simple changement de nom, comme il en existe couramment à chaque changement de gouvernement. C'est comme en France, hein. Vous savez bien, ça change de gouvernement, ça change d'appellation. Bon, en soi, il n'y a rien de bien méchant. Et pourtant, ce changement de nom était révélateur de la volonté des nazis de se dégager du cadre juridictionnel antérieurement codifié pour pratiquer l'arbitraire total. Alors vous voyez, on passe de quelque chose qui quand même est encore, relève encore d'un cadre juridictionnel pour passer à l'arbitraire total. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que l'internement en camp de concentration ne relevait d'aucune procédure judiciaire. Et l'internement en camp de concentration pouvait même frapper une personne dans la foulée de sa relaxe par un tribunal. C'est-à-dire, vous sortez du tribunal, hop, et là, vous avez la Gestapo et direction le camp. Bien sûr, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement troublant parce que ça vous montre à quel point il faut être d'une extrême vigilance à ce qui se dit et que l'on reprend souvent à la légère. Il faut savoir, une idéologie produit du langage. une idéologie produit du langage. Et par le moyen du langage, elle entre dans les consciences. Et petit à petit, et j'y reviens encore, de proche en proche, subrepticement, doucement, par psittacisme, c'est-à-dire le psittacisme, c'est la répétition des choses non réfléchies. On reprend les termes, mais on ne réfléchit pas à ce qu'ils signifient. Eh bien, petit à petit, ça finit par imprégner les esprits, et ça s'impose, et finalement, on dit bien, concentration, slager, 4, 7, bon, d'accord. C'est la banalisation. Réflexion numéro 5, je vais attirer maintenant votre attention sur une autre donnée concernant le néologisme camp de concentration. C'est une donnée qui est fondamentale et qui est pourtant négligée. Elle est d'ordre étymologique. Le mot concentration, slager, est calqué sur l'anglais concentration camp. Concentration camp, c'est une invention du maréchal Kitchener pour réduire la résistance des Boers, ou en français on dit les Boers, hein, je crois, Boers, la résistance des Boers durant la seconde guerre du Transvaal en Afrique du Sud. Ça se passait entre 1899 et 1902. Et là, ce maréchal Kitchener, donc, pour réduire la résistance des Boers, avait ouvert des camps. C'était déjà assez terrible. Et le terme va apparaître en langue allemande durant la guerre, conduite de 1904 à 1907 par le général Lothar von Trotha dans la colonie du sud-ouest africain allemand, l'actuelle Namibie. En Namibie, donc, qui était colonie allemande, pour faire simple, si vous voulez, il y a eu une révolte des populations qui était très maltraitée. C'était des Herero et des Namia. Et pour mater la révolte des Herero et des Namia, le général von Trotha fait édifier plusieurs camps auxquels il donne le nom de, en allemand, Konzentrationslager. Donc le terme apparaît à cette époque, Konzentrationslager. Le plus connu étant celui de la péninsule de Lüderitz, en Namibie, non content d'y interner des populations entières et de les faire crever de faim, on va pratiquer là le travail forcé, les châtiments corporels, ainsi que des expérimentations médicales. Tenez-vous bien, un certain Eugen Fischer, qui était un spécialiste du cerveau, va donc se faire livrer des têtes de Herero, des têtes de Namia, pour aller voir ce qui se passe dans le cerveau, ceci afin de démontrer l'infériorité des populations, l'infériorité raciale des populations noires. Vous voyez, donc il y a déjà là une sorte de précédent. En 1915, l'Allemagne perd la Namibie, qui va passer sous mandat, grosso modo, britannique, c'est un peu plus subtil que ça, mais enfin bon, on va dire, sous mandat britannique, et la monstruosité de la Première Guerre mondiale va reléguer toute cette histoire dans l'oubli. On oubliera totalement ce qui s'était passé en Afrique. Ça vient maintenant de ressurgir. Le terme Konzentrationslager a donc à l'origine un contenu guerrier. Vous voyez, c'est apparu dans le cadre d'un contexte de guerre. Et partant, son emploi par les nazis suggère donc qu'il existe sur le territoire du Reich un état de guerre. C'est une guerre pour la régénération de l'Allemagne qui oppose sur le sol de la patrie, donc en Allemagne même, ce qu'on appelait le Kriegsschauplatz Innerdeutschland, ça oppose les forces du renouveau national aux forces de la désagrégation, à savoir la collusion judéo-pacifico-démocratico-marxiste. Hein, on aimait bien faire des mots comme ça, à tiroir. Et cette collusion judéo-pacifico-démocratico-marxiste, elle est coupable d'avoir, en 1918, poignardé l'Empire dans le dos, la fameuse Dolchstoßlegende, la légende du coup de poignard. Elle est accusée d'avoir provoqué la révolution de novembre. Elle est accusée d'avoir signé l'ignominieux traité de Versailles, le fameux diktat, et d'avoir promu la République de Weimar. Rien ne sera possible pour les nazis tant que les forces de la désagrégation, Kräfte der Zersetzung, le terme est très fort, Kräfte der Zersetzung, n'auront pas été éliminées. Donc il faut éliminer toutes ces forces de la désagrégation. Et pour les éliminer, tous les moyens sont légitimes. Tous les moyens sont légitimes. Donc on a criminalisation des prétendus agents de la désagrégation, inféodation de l'ensemble des rouages de la société, et le 23 mars 1934, mise en place d'une cour de justice de la communauté raciale populaire, le Volksgerichtshof, afin, je cite Hitler, « d'anéantir sans recours toute velléité de ne pas agir inconditionnellement au service de cette mission supérieure où il y va de l'existence ou de la non-existence de la nation ». Le Volksgerichtshof, c'est ceux qui condamneront la Rose Blanche, par exemple. Et bien sûr, cette mission supérieure dont parle Hitler, c'est lui seul qui l'a définie. C'est-à-dire qu'il met un tas d'institutions pour s'assurer un pouvoir absolu. Réflexion numéro 6, un commentaire. Oui, un commentaire s'impose à propos de la dernière séquence du communiqué de Himmler, que j'ai cité tout à l'heure, qui annonçait l'inauguration de Dachau. Souvenez-vous, je vous rappelle, nous sommes convaincus d'agir par là même pour la sécurité de notre population nationale et conformément à ses aspirations. On voit que dans cette phrase, le futur maître des camps, le grand maître des camps, Himmler, il affirme la prétention du pouvoir nazi de décider en lieu et place des citoyens. Cette prétention sera du reste entérinée le 1er décembre 1933 par la loi sur l'unité du parti nazi et de l'État. Réfléchissez bien à cette notion, unité du parti nazi et de l'État, c'est-à-dire que l'État, c'est le parti, c'est l'État. Puis définitivement acquise, ça sera entériné donc par cette loi, puis définitivement le 1er août 1934, au lendemain de la mort du président Hindenburg, par la loi sur la concentration des pouvoirs entre les mains de Hitler, le Führer qui est le maître absolu. Et le grand fantasme des nazis, c'est de faire que le corps de la nation soit, d'après leurs critères, en bonne santé physique et mentale. Et ceci, donc, induit qu'il faut faire la chasse au moindre symptôme de ce que les nazis considèrent comme relevant de la dégénérescence. Et ce, dans tous les domaines, dégénérés, entartet. Ça apparaîtra même dans pour l'art. Entartete Kunst, l'art dégénéré. Il y aura une exposition qui sera organisée sur ce thème-là. Ça, dégénéré, entartet, c'est un mot clé du lexique nazi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une tumeur dans le corps de la nation, elle doit être éradiquée par une cure thérapeutique appropriée. Et si la tumeur s'avère trop résistante, si la cure thérapeutique échoue, il faudra éliminer cette tumeur par une intervention extirpatrice. À ce titre, le séjour en camp de concentration pourra être la thérapeutique appropriée pour régénérer les éléments tumoraux du corps communautaire et reconstituer l'harmonie. Et si la thérapeutique échoue, ben, on passera au traitement spécial, c'est la Sonderbehandlung, qui extirpera effectivement, définitivement, l'incurable du corps communautaire. Et voilà ce que dira à ce propos le député nazi Hans Dietrich dans une interview en juin 1933, suite à sa visite de Dachau. Le gars, il sort de Dachau en juin 1933 et il parle à la presse. Il s'écoulera pour certains bien des saisons. Avant que leur séjour en cure à Dachau, il emploie le mot cure, comme pour une cure thermale, que le séjour en cure à Dachau ne les ait tant bien que mal guéris et n'ait refait d'eux, coussi coussa, des membres utiles de notre congrégation raciale populaire allemande. Par contre, pour certains, même la prodigieuse cure à Dachau, fabelhafte Dachauer Kur, la prodigieuse cure à Dachau ne servira à rien. Ce n'est que lorsque ce contingent malade, parce que d'essence différente de notre race allemande, aura été éliminé et aura disparu sans laisser de traces, que l'avenir de notre communauté raciale populaire sera définitivement assuré. Là, dans leur obsession à éliminer toute souche maligne, les nazis en sont venus à cette taxinomie, la taxinomie c'est la classification, à cette taxinomie délirante qui a consisté à affubler des gens de désignations stigmatisantes, telles que asocial, asocial, politiquement suspect, politisch unzuverlässig, rétif au travail, arbeitsscheu, et ou encore dans leur délire racial sur Jude, juif, ou Zigeuner, Zigane. Vous voyez là ce tableau, bon, ça vous le connaissez. Et dans le camp de concentration, ces sémantèmes stigmatisants, ces termes stigmatisants, se doublaient d'une stigmatisation physique par le port d'un triangle d'une couleur précise, qui était affecté à chaque catégorie, bon, je ne détaille pas, là, vous voyez, hein, avec éventuellement, ça c'est important, panachage. Panachage, j'entends par là, vous voyez, par exemple, là, vous avez, voilà, c'est ça, panachage. C'est-à-dire, ça, c'est un politique, mais l'étoile jaune désigne politique juif. Là, c'est déjà une double tare. Si en plus il est homosexuel, c'est une triple tare. L'intention évidente est hélas trop souvent couronnée de succès, parce qu'il y a eu ça, était de paralyser toute solidarité entre les détenus. Si vous rajoutez à ça la dépersonnalisation, cheveux rasés, tenues rayées, objets personnels confisqués, plus de noms mais un numéro, etc., les violences, la faim, la mort omniprésente, et parallèlement certains privilèges ou l'éventualité même d'une libération pour celui qui servait les bourreaux, vous comprendrez aisément quel climat régnait dans l'univers concentrationnaire. Je vous signale à cet égard deux ouvrages majeurs, hein, qui ont été écrits à chaud après la sortie de leur auteur de Buchenwald, L'univers concentrationnaire de David Rousset et L'état SS de Eugen Kogon, avec le chapitre 20 chez Kogon, qui est consacré à la psychologie. Alors, il a un chapitre sur la psychologie des SS, mais le chapitre 20 est consacré à la psychologie des détenus. Et c'est assez intéressant, évidemment, de voir que, en fait, tout le monde chercher peu ou prou à améliorer sa condition, ce qui est bien humain. Je vous recommande aussi cet ouvrage-là, Les morts inutiles de François Wetterwald. C'est un chirurgien survivant de Mauthausen et Ebensee. Ouvrage très important, de mon point de vue, pour comprendre les camps. Réflexion numéro 7. Alors, le gouvernement nazi n'a jamais fait mystère de l'instauration du système concentrationnaire, je vous l'ai déjà dit. Vous en avez là un exemple, voilà un article de presse, vous voyez, un Konzentrationslager für politische. Donc, ils l'ont dit, c'était connu. Et dans son article de la Coburger Zeitung, dont je vous parlais tout à l'heure, le député nazi Hans Dietrich est parfaitement clair, je le cite, « Dachau sera une institution permanente pour ceux qui, peu importe leur race, leur croyance ou leur statut social, nous ne voudrons pas comprendre que le Troisième Reich est en marche. Dachau n'est pas un épisode, c'est un programme. La route qui mène à la réalisation du national-socialisme et du Troisième Reich passe par Dachau. Dachau, ici, pris comme un symbole, et d'autant qu'on est en 1933, donc le système n'est pas encore ce qu'il sera plus tard. Tous les témoignages, qu'ils soient oraux ou littéraires, montrent combien le spectre du camp hantait l'univers, habitait l'univers mental de l'Allemagne nazie. Mais oui, bon. Alors donc, ça le codifiait, c'est-à-dire que désormais, avant d'agir, les gens disaient « Oulala, mais ouais, attention, qu'est-ce qui va se passer si je... » Il faut savoir qu'à l'époque, la moindre petite blagounette pouvait vous conduire directement en camp. Voilà, seulement tout en redoutant le 4-7, le camp de concentration, ça aussi c'est une réaction qui est bien courante chez les gens, on cherchait à le dédramatiser par des mécanismes de défense, ces mécanismes de défense que nous développons tous face à quelque chose de perturbant, face à quelque chose de traumatisant, pour évidemment minorer notre angoisse, pour réduire notre angoisse. Et il y a là un moyen, c'est la banalisation. C'est-à-dire, vous faites entrer le Konzentrationslager dans la langue courante. Avec des expressions du type, je traduirai, Mach weiter so und du bist reif für Dachau. Continue comme ça, mon gars, et t'es bon pour Dachau, dans les cours d'école. Vas-y, fais ça, hop, t'es où, hein? Continue comme ça, ou t'es bon pour Dachau. Ou encore, quand quelqu'un faisait une grosse bêtise, herzlich willkommen in Dachau, bienvenue à Dachau. Vous voyez, donc ça, c'est un phénomène de banalisation, dont il faut évidemment se méfier. Toutefois, il va de soi que d'une façon générale, on évitait de savoir ce qui se passait réellement derrière les barbelés. Et il y avait ceux qui bénéficiaient d'une remise en liberté, ça arrivait, et qui donc savaient, et cela, bien sûr, ils se taisaient par peur des représailles. Mais il y a pire, c'est que certains qui étaient connus du grand public consentaient, pour échapper au camp, à entrer dans le jeu de la propagande nazie. Par exemple, un ancien haut responsable communiste du nom de Karl Albrecht, dans un livre de 650 pages, « Le socialisme trahi »,« Der verratene Sozialismus », paru en 1938, remercie les nazis, de lui avoir ouvert les yeux quant à la véritable nature du communisme. Et il affirme, page 633, je cite les pages pour que vous puissiez vérifier, à propos de sa détention en camp, « Je n'ai jamais entendu de cri de mort. » Vous voyez, hein, le livre est de 38, donc les camps existent quand même depuis 5 ans. « Je n'ai jamais entendu de cri de mort, ni vu de scènes de torture, ni d'exécution massive. » Que ce soit dans les caves ou dans la cour du camp. Je n'ai jamais non plus entendu un prisonnier faire allusion au fait qu'il aurait été maltraité ou aurait assisté à un acte de cruauté. Je pouvais maintenant me convaincre que ce que racontait la presse soviétique et étrangère hostile à l'Allemagne n'était que mensonge et calomnie. Bon, c'est triste, c'est peut-être lamentable, mais c'est parfaitement révélateur de ce que signifiait l'existence des camps. À l'étranger, notamment en France, l'existence des camps ne suscitera qu'un intérêt très superficiel de la part de la presse. La presse ne s'intéressera pas vraiment à cette question-là. Et je vous renvoie donc là à ce propos, parce qu'il faudrait que je détaille. Oui, et je vois, voilà, donc à cet excellent article, vous le trouvez sur Internet, l'information en France sur les camps de concentration allemands entre 1933 et 1940. C'est un excellent article. Par contre, les comités d'action antifasciste, à Paris par exemple, se préoccuperont de la question et vont diffuser dès août 1933 des témoignages, par exemple celui du député communiste Hans Beimler au camp d'assassins de Dachau. Et Beimler savait de quoi il parlait puisqu'il avait réussi à s'évader de Dachau dans la nuit du 8 au 9 mai 1933. Réflexion numéro 8. Alors, le temps va passer et le système va évoluer et se perfectionner. Le système concentrationnaire, donc, va se développer. Les camps vont se multiplier et ils vont tisser bientôt sur le territoire du Reich une véritable toile d'araignée. Je vais afficher là une carte où vous voyez les camps tels qu'ils sont en 1936. Cette carte, dans ce format que vous voyez là, a été distribuée lors des Jeux Olympiques de 1936 par les antifascistes allemands à tous les journalistes qui étaient présents sur le site des Jeux, y compris à un certain nombre de touristes, enfin de gens qui venaient assister aux Jeux Olympiques. Ça n'a pas eu de suite, ça n'a pas eu de conséquences. Pourtant, c'est déjà quand même extrêmement parlant quand on regarde tous les grands cas en noir sont les concentrationslager. Les autres lieux sont des lieux de détention. Donc, véritable toile d'araignée. À partir de 37-38, sous la pression des impératifs liés à la préparation de la guerre, les camps vont devenir un immense réservoir de main-d'œuvre que viendra bientôt grossir le flot des déportés des territoires occupés. Donc 38, c'est l'époque du camp de Buchenwald. Buchenwald, près de Weimar. Ce camp-là, c'est le prototype du camp d'exploitation de la force de travail des détenus, avec une entreprise SS d'armement, la DAV, qui sera bientôt rejointe par des commandos en sous-traitance pour BMW, Siemens, etc. Bon, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, première phase des camps jusqu'en 1938, internement de l'opposition, etc., de tous ceux qui sont susceptibles de porter préjudice à ce qu'ils appellent la communauté raciale populaire, à partir de 1938, on fait travailler. Vont suivre, après l'annexion de l'Autriche en mars 1938, Mauthausen, et après l'invasion de la Pologne et la déclaration de guerre en septembre 1939, Auschwitz, qui va inaugurer l'internationalisation des camps, et où seront présents Krupp, Siemens, le Trust IG Farben, qui produira notamment du caoutchouc synthétique, et Auto Union, devenu après la guerre Audi. Alors, on ne peut pas se dispenser d'insister sur l'utilisation économique des concentrationnaires. Par-delà la force de travail, cette utilisation va être poussé jusqu'à l'exploitation même du corps des détenus. À partir de septembre 40, on récupère l'or dentaire. C'est évoqué dans ce livre-ci que je laisserai à votre bibliothèque, à votre CDI. On va récupérer l'or dentaire. À partir de février 42, on va pratiquer d'affreuses expériences médicales. Dans les camps d'extermination, on va tout récupérer, les vêtements, les objets personnels, les cheveux pour fabriquer des matelas, les cendres de crémation pour faire de l'engrais, etc. Et cette exploitation forcenée a été une loi absolue. Il s'agissait d'abord de pressurer l'individu jusqu'à sa limite physiologique extrême. C'est C'est-à-dire, je travaille, et à partir d'un moment, je ne peux plus travailler. C'est fini pour moi. Songez, par exemple, vous qui êtes allé à Mauthausen, songez à ces gens qui portaient les dalles de pierre extraites de la carrière en remontant ces marches. On ne peut plus. Mais ça, c'est ce que l'on appelait, la néantisation par le travail, la Vernichtung durch Arbeit. Mais ça va au-delà. On peut encore, à partir du moment où l'individu ne peut plus travailler, on peut encore tirer profit de lui. On peut encore soutirer de lui ce qui peut l'être jusqu'à son total effacement. Et donc, récupération des dents en or, enfin, etc., etc. Et contrairement à ce que pensent certains, l'exploitation économique de la force de travail ne suppose pas sa préservation, parce qu'on pourrait se dire c'est complètement ridicule, parce qu'à partir du moment où tous ces gens-là travaillent, il faut quand même que je les ménage un peu pour qu'ils puissent continuer à travailler. Pas du tout, parce que, quelle est l'idée que l'on a en tête? Eh bien, grâce à la politique impérialiste d'expansion territoriale, qui sera illimitée, on disposera en permanence d'un réservoir humain considérable. Donc, on exploite la force de travail, on exploite ce qui reste, ce qui peut encore l'être, et puis, hop, on fait venir un nouveau contingent, et ça recommence. Et vu qu'il y a politique d'expansion territoriale illimitée, dans leur esprit, on trouvera toujours des gens pour renouveler la force de travail. Mais ce que nul n'avait envisagé, pas plus les marxistes que les freudiens, c'est qu'on en arrive un jour à exploiter un individu par-delà sa mort et que l'on tue industriellement les improductifs pour en tirer quand même profit. Alors ça, c'est le phénomène que même Fritz Lang, dans son film Metropolis, vous voyez quelques images là, mais c'est un film d'anticipation de 1927. Il pousse très loin l'anticipation de la réalité nazie, mais ça, personne n'a pu le conceptualiser à l'époque. Donc ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Enfin, pour terminer, je vais vous dire un bref mot sur les gazages. Parce que ça, c'est un sujet qui, malheureusement, fait beaucoup parler et qui est l'objet d'énormément de discussions. Vous avez entendu tous parler du révisionnisme, qui en réalité n'est pas du révisionnisme, car le révisionnisme est tout à fait justifié en histoire, à partir du moment où on a d'autres sources qui viennent apporter des éléments nouveaux, mais c'est du négationnisme. Donc attention, pas révision, mais négationnisme. Les premières chambres à gaz entrent en service dans les premiers mois de l'année 1940, dans le cadre de l'opération T4. Opération T4, c'est l'opération d'élimination des malades mentaux et des handicapés. Je ne sais pas si à Mauthausen, vous avez eu l'occasion au moins d'entendre parler de Hartheim, qui était un lieu d'élimination. Élimination des malades mentaux et des handicapés, à partir, je dis bien, des premiers mois de l'année 40. Pour les chambres à gaz, hein, parce que précédemment, on a essayé de les gazer, les pauvres malades par bien d'autres moyens, des camions clos, etc. Tout le monde a été très, très, très vite au courant de ce qui se passait. Et il y a eu des campagnes de protestation menées notamment par les églises. Et ces campagnes de protestation ont obligé le régime à suspendre l'opération fin août 1941. Je ne veux pas dire pour autant que l'opération ait réellement cessé, parce qu'on a continué, soit en les laissant mourir de faim, soit par injection létale, etc. Mais enfin, donc, l'opération est suspendue en août 41. Tout ça, je l'ai détaillé, je me permets, avec d'autres, hein, pas tout seul, dans ce livre-là, « Médecine et nazisme ». Vous voyez là une pauvre personne atteinte de nanisme qui a été disséquée pour voir... on voit encore son squelette dans un musée. Alors, concernant les gazages, maintenant, dans les camps d'extermination, à partir de fin 1941, les Allemands se doutaient qu'il se passait quelque chose. Mais à part ceux qui étaient directement impliqués dans le processus et étaient tenus au silence, ils n'en connaissaient pas la teneur exacte. C'est pour ça que là, j'attire aussi votre attention sur ce livre de Kogon et autres, les chambres à gaz secrets d'État. Secrets, oui, mais quand même des choses transpirées. Ce livre est une référence absolue pour ceux que cela intéresse. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, ou encore en Suisse ou au Vatican, on avait les moyens de savoir, et même on avait des informations. Mais en temps de guerre, la question juive n'était pas la priorité. Et de plus, il faut quand même aussi considérer que l'antisémitisme religieux et économique était important. Et on se méfiait, dans des pays comme la Suisse, par exemple, j'ai travaillé sur ce sujet-là, sur la politique de la Suisse à l'époque national-socialiste, on se méfiait d'une submersion migratoire, c'est-à-dire l'afflux d'immigrés. Et je renvoie là à deux livres, encore une fois, ce livre de Martin Gilbert, Auschwitz and the Allies, malheureusement non traduit, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, Auschwitz et les Alliés, c'est-à-dire comment les Alliés ont réagi vis-à-vis de la question des gazages dans les camps de la mort, et un autre livre qui est tout à fait remarquable, c'est celui-ci, donc, de Walter, en réalité, Le terrifiant secret. C'est aussi quelque chose de très, très troublant. Bon, parlons maintenant de gens qui sont un petit peu négligés. Les tziganes. Les tziganes et des nomades qui ne sont pas des tziganes, que l'on appelle les yéniches. Les tziganes et les yéniches, il faut bien le dire, personne ne s'en souciait. Et j'ai eu l'impression que, sporadiquement, peut-être on en parle un peu, mais ce n'est pas encore une question qui est bien...
Pardon. En spécialité maintenant.
C'est au programme
de spécialité.
C'est au programme du terminal spécialité.
Ah, très bien. Les tziganes.
La mémoire des génocides et les tziganes.
D'accord. Très bien. Ah, très bien. C'est inscrit. Ah, merci Arlette, c'est une bonne info. Et les yéniches, non. Non. Alors, les yéniches, en deux mots, on ne sait pas qui ils sont. Les yéniches, bon, on fait remonter ça à la guerre de 30 ans. À la guerre de 30 ans, 1618-1648, sont des gens qui, durant la guerre, errent sur les chemins... sont perdus, anciens militaires, etc. On ne sait pas trop. Et ils se sont créés une langue, ce qu'on appelle un sociolecte, une langue particulière qu'ils sont seuls à comprendre, avec laquelle ils communiquent. Et ces yéniches, ils ont été... Alors, ils vivaient de ils étaient rétameurs, ils aiguisaient... vous n'avez peut-être pas connu ça, ça existait encore. Il fut un temps, Arlette. Hein. Ces gens qui passaient, ces gens qui venaient aiguiser les couteaux, ces gens qui venaient...
Les rémouleurs.
Oui. Les rémouleurs, toutes ces choses-là. Voilà, ils exerçaient ces professions-là. Alors, souvent, bon, si vous aviez vu des... Ou alors, ce qu'on appelait aussi le pierrot, c'est-à-dire... C'était Pierrot, peau de lapin, c'est-à-dire récupérer toutes les peaux de lapin. Et ces gens-là, C'était très certainement, c'était des Yéniches. Et il y a un descendant de Yéniche qui est célèbre, c'est un chanteur, c'est Stéphane Eicher. La langue, c'est une langue d'influence germanique, mais il y a du yiddish dedans, il y a un tas de dialectes qui ont été récupérés. J'ai essayé de comprendre, j'ai rien compris. Très sincèrement, j'ai essayé. Alors, on avait commencé à interner les tziganes dès 1933 à Dachau. En 1938, ils sont systématiquement internés dans différents camps. Et les yéniches, eux, sont parqués en 1936 au camp de Marzahn. Le camp de Marzahn se situe dans la banlieue de Berlin. Et ils sont là soumis au travail forcé dans des conditions de vie effroyables. Bon. Ce qu'il y a de très très particulier, c'est qu'on leur a laissé leur boulotte. Alors, pourquoi ? Parce qu'il fallait faire propre. En 1936, c'était les Jeux Olympiques qui arrivaient, il fallait faire propre. Donc, on a évacué tous les yéniches en les concentrant à Marzahn. Mais on les a fait travailler quand même, hein. Et en 1943, les hommes, femmes et enfants de tziganes et yéniches encore en vie vont être dirigés sur Birkenau, Auschwitz-Birkenau, pour y être gazés. Au total, tziganes et yéniches, on estime, en comptabilisant les déportations des pays occupés, qu'il y a eu au minimum 300 000 victimes. Bon, sur les chiffres, il faut être toujours extrêmement vigilant. Ça n'est qu'une estimation, elle est très incertaine. Certains montent jusqu'à 500 000, parfois un peu plus. Et donc, Arlette vient me casser mon final, parce que, en fait, je voulais vous dire que le cas aujourd'hui encore des tziganes et des yéniches n'intéresse guère. Mais une question que je vais vous poser à vous. Vous connaissez bien sûr tous le mot Shoah, bien sûr. À l'origine, d'ailleurs, Shoah. Le mot est contesté. Bon, on ne va pas s'engager là-dedans. Mais qui parmi vous connaît le mot par lequel les tziganes et yéniches désignent leur génocide? Non, vous n'avez pas idée. C'est normal. Ils appellent ça le Zamudaripen. Zamudaripen, écrit Samudaripen. Je prononce peut-être un peu à l'allemande. Je vois que non, Zamudaripen. Vous connaissez le terme pour le génocide, les génocides de Turcs, des Arméniens, j'entends. Génocide des Arméniens par les Turcs, non? Non plus. Il y a un terme spécifique, mais je me méfie toujours parce que les prononciations là encore sont un peu particulières. Ça s'écrit Aghet, A-G-H-E-T. J'ai essayé de voir, certains disent Aghet, d'autres disent carrément Achet. Il y a quand même eu un million de personnes là, qui ont été assassinées. Il y a deux livres fabuleux à ce propos, et je conclue là-dessus. Hein, parce que, un livre de Franz Werfel, je vous recommande, Franz Werfel, les 40 jours du Mousadak, et un autre livre de Edgar Hilsenrath, c'est Conte de la pensée dernière, si ça vous intéresse. C'est les deux livres qui traitent vraiment, vraiment, avec beaucoup de précision et de documentation historique, tout en étant bien sûr de l'ordre du roman, mais la précision historique est présente et c'est très très informatif sur ce génocide-là. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. Merci de votre patience. C'est très bon. Merci beaucoup.
Le travail conduit par Thierry Ferral fut celui de l'illustration d'une chimère historique largement méconnue, la politique concentrationnaire nazie. Le maître a ainsi précisé la saisie du pouvoir et le maintien de ce dernier par les nazis dans un contexte de crise totale en Europe. Cependant, le point nodal auquel il s'est attaché fut celui d'exposer la raison d'une dénazification difficile dans l'après-guerre. Effectivement, ce qui explique une telle expansion du régime est l'usage de la séduction au cœur d'une campagne propagandiste intense. Si la peur fut un outil également sollicité, l'adhésion aux idéaux nazis a été plus fortement ancrée et répandue. En tant que jeunes adultes, il me semble essentiel que nous prenions. Jamais dans l'histoire de telles horreurs ne doivent être perpétrées de nouveau. Merci donc au professeur pour ses éclairages.
Hey, t'écoutes quoi en ce moment ?
Radio Cham.
Mais c'est quoi Radio Cham ?
La radio qui cuisine les ondes.